Coucou, c'est Chantal Goya, vous écoutez le Geek, c'est chic.
Bonsoir et bienvenue dans le Geek, c'est chic, l'émission de pop culture sur D4B. Vous nous écoutez sur 90.4 FM dans le Pays Mérois ainsi que sur 101.1 dans le New York. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en direct sur internet sur le site de D4B et retrouver les émissions précédentes sur le Mixcloud et sur notre Facebook.
Auditrices, auditeurs, bonjour les amis, content de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Geek C'est Chic. Il est toujours à côté de moi, vaillant, robuste, le poil lustrant.
Merci.
Et il s'occupe toujours de la technique et de la bande dessinée, c'est mon bon Alex. Alex, comment ça va?
Mais écoute Johan, ça va super bien, content de te retrouver. En plus, on approche du salon de la BD. Bien sûr, c'est enregistré avant le salon, peut-être diffusé après. Mais nous sommes super contents de vous retrouver. Et on a quand même, mine de rien, quelques pépites qui nous ont bien plu.
Tout à
et
fait.
Je et je crois puis... que des pépites avec de la pizza.
Oui, pépites avec pizza. Et avant de passer à la pizza, permettez-moi et permettez également à Alex de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter les vœux.
Les vœux, tout à fait. Sur la première, on n'avait pas eu le temps.
En vous souhaitant de belles lectures, surtout, le plus important. Donc oui, on va commencer par les comics cette fois-ci. Et comics pizza, et qui dit comics pizza, dit forcément Tortue Ninja. Avec un album qui est sorti fin 2023 chez Vestron. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une maison d'édition qui fait du comics de licence. Star Trek, Alien... pas mal d'éditions d'Alien avec le scénario d'O'Bannon original qui a été travaillé graphiquement.
Transformers,
des croisements aussi, hein, parce que j'ai un excellent Star Trek Transformers qui existe, Star Trek Petit Poney, enfin des trucs complètement. Transformers Petit Poney qui existe, hein, le mashup de l'enfer. C'est vraiment le. C'est qui est
alors
vraiment
là,
très drôle.
Plus, ah ouais, mais t'avais pas aussi un masque.
Des masques aussi, masques, et puis avec d'autres licences qui interviennent, donc ils sont vraiment très très complets là-dessus. Avec une politique éditoriale sympa, parce qu'il ne se moque jamais du lecteur, un papier glacé qui est vraiment d'une belle qualité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce bel objet qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle, le scénario original, donc l'adaptation du film sorti en 1990, par les auteurs originels du comics. Donc là, on est dans les années 90, c'est la Tortue Mania, hein, d'accord, c'est tous les gamins sont redingues des Tortues Ninja, il y a eu la déclinaison... télévisuel en animation que les gens de notre âge ont tous connu. Il y a eu le film en 90, suivi de deux autres films et après d'une flopée de téléfilms qui sont allés avec. Comme souvent dans l'industrie du cinéma dans les années 90, un blockbuster va sortir et on va voir sa déclinaison bande dessinée, qui était trouvable facilement chez les marchands de journaux. Là, ici, le studio fait appel au créateur originel des Tortues Ninja, dont Kevin Eastman et Peter Laird, pour adapter graphiquement le film. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage proposé chez Vestron, c'est qu'on a une galerie d'illustrations faite par différents auteurs en hommage aux Tortues Ninja ici. Et c'est un livre très épais parce que vous avez la version colorisée de l'adaptation du film Tortues Ninja, qui est suivie par le sketchbook, c'est-à-dire qu'on a tout le storyboard qui est avec toutes les annotations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les annotations dans la marge aussi des auteurs qui pour revoir une case, revoir un dialogue. Donc c'est vraiment le travail préparatoire qui est vraiment purement hallucinant. Et à la fin, vous avez la version de base, la version originale, qui est sortie aux éditions Mirage aux États-Unis en 90, qui est en noir et blanc, parce que, il faut le savoir, chers amis, les Tortues Ninja, au départ, n'étaient pas du tout colorisées en version bande dessinée. La couleur des bandeaux est venue après dans la version animée, mais au départ, on fait bien suivre les bulles pour savoir quel était le personnage en question, et c'est plutôt passionnant de voir, parce qu'on est vraiment dans le croisement entre le film qui était tout public, qui était sympathique à voir, qui était tout public, et là, c'est quand même un poil plus sombre, ce qui était au départ les Tortues Ninja en bande dessinée, avec la vraie fin, avec la fin qui était prévue au départ pour le film, que le studio n'a pas aimé pour couper et faire autre chose. Donc une fin qui est assez rigolote, qui est un petit peu en clin d'œil avec le quatrième mur qui tombe. Donc c'est très sympa, c'est un bel ouvrage. Alors je pense que tous les fans des Tortues Ninja doivent se l'arracher, enfin devraient se l'arracher en tout cas, vu que c'est vraiment fait pour leur faire plaisir. Alors, si vous n'êtes pas très fan des Tortues Ninja, bah, vous passerez votre chemin. Vous irez voir ailleurs chez Vestron, parce qu'il y aura forcément une licence qui va vous plaire. Pour ceux qui ont gardé un bon souvenir du film, c'est toujours très rigolo de revoir en fait, les passages, parce que même les vannes, tout ce qui faisait le sel du film, c'est vraiment dans la bande dessinée. Et voilà, les fans seront vraiment ravis de l'objet trouvable chez Vestron. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtle, le scénario original de Kevin Eastman, Peter Laird, et traduit par Eric Talbot. On reste dans les comics, Alex ?
On reste, ouais.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à nous présenter en comics ?
Alors, c'est quelque chose qui est sorti il y a peut-être déjà un petit moment, mais c'est toujours dans la X-Men Mania. Ça s'appelle Sins of Sinister. Ça fait partie de cet univers qui est presque fini aux États-Unis, qui doit même être fini, où les X-Men sont pour depuis quelque temps sur un piédestal, et en gros, si vous voulez, pour une fois, même s'ils mangent, ils mangent pas trop fort, parce que ils se font ressusciter. Il y a vraiment tout un truc sur l'île de Krakoa, c'est vraiment depuis Age of X, Power of Ten, Hickman avait créé quelque chose de vraiment super, où les personnages, enfin, pouvaient vivre correctement, parce que depuis quelques années, les X-Men mangeaient, on se demandait si Marvel voulait pas les faire disparaître, les faire remplacer par les Inhumains n'ont pas marché, donc... Et là, c'est une mini-série en deux bouquins, où on voit Sinistre encore faire des coups, des entourloupes. C'est vraiment sympa, c'est en deux parties. Bon, la couverture de la version normale, c'est Lainil Francisou, donc c'est un de mes chouchous, hein. C'est un philippin, il dessine vraiment super bien. Il avait déjà, c'est lui qui avait relancé la série X-Men au début de l'ère de Krakoa. Donc moi, je vous propose Sins of Sinister, une mini-série qui, à mon avis, n'aura pas vraiment d'incidence sur les sauts de série, parce que voilà, c'est dans l'air du temps de créer des mini-séries et de rajouter, c'est le comics, hein. Vous avez une série qui marche, vous en avez 15 000 qui arrivent, dès que ça marche plus, on arrête tout et on recommence tout à zéro. Mais bon, si vous aimez que les events, bah allez-y, c'est en deux bouquins, et ça permet de voir des dessins pas trop dégueulasses pour une fois, parce que les mini-séries souvent sont un peu pourries, on met pas forcément les meilleurs dessinateurs dessus. Mais là, voilà, ça peut être distrayant. Mais si vous ne l'avez pas, je pense pas que ça embête beaucoup dans l'histoire normale.
Alors, on va repartir chez Vestron, parce qu'ils ont été très généreux, Vestron, à la fin d'année avec les publications. Et on va parler d'une autre adaptation, une autre licence qui est proposée par cette maison d'édition, les Power Rangers. Alors, si vous suivez le Geeks et Chic, on avait parlé à un moment donné des séries Super Sentai, et notamment de celle-ci qui est très très particulière. Donc, généralement, nous, on est passé un petit peu à côté avec Alexandre, parce qu'on était déjà passé à autre chose. Et y a plein de comics qui existent aux États-Unis de cette licence de notre cher ami Haïm Saban. Force est de constater que là aussi, on en prend plein les mirettes. Parce que même si on n'est pas très fan des Power Rangers, quand on a eu l'album en main, on a été scotché par la qualité graphique de cette intégrale. Alors, cette intégrale, c'est le premier tome, elle contient les épisodes 0 à 8 qui étaient déjà sortis donc fin 2017 de mémoire, qui avaient déjà été proposés en France chez un autre éditeur. Puis les ventes qui n'étaient pas dans les espérances de celui-ci ont fait qu'ils ont stoppé court à l'édition de Power Rangers, c'est récupéré chez Vestron, qui là, pareil, donc une mise en page comme ils savent bien les faire, avec le format aussi qui est intéressant, parce que c'est vraiment le format classique du comics, hein. on n'est pas sur quelque chose qui a été agrandi ou rapetissé pour des choses purement commerciales. Là, on est sur quelque chose de très très beau, un dessin qui est vraiment d'une qualité, un dessin qui est très adulte, je trouve, qui contribue à une ambiance assez sombre de l'histoire des Power Rangers, où on suit ici les aventures de Tommy Olivier, qui est le Ranger vert, qui est le pilote du Dragon Zord, pour ceux qui connaissent, qui a échappé au contrôle mental des ennemis, des Rangers, donc de la fameuse sorcière Rita, et qui va rejoindre du coup l'équipe de départ, avec ces histoires d'est-ce qu'il y a un trait dans l'équipe, qui c'est qui va se retourner. Et même moi qui suis très très éloigné de cette série, j'ai été vraiment plongé dans les épisodes qui sont contenus dans cette intégrale, pour deux raisons. La première, c'est la qualité du scénario. Qualité du scénario, parce qu'on retrouve un peu tout le côté avec les pauses qu'on retrouve dans ce genre japonais au départ. On retrouve les personnages de la série, on retrouve les mechas également, hein, donc les robots de la série. Mais on les retrouve avec un côté un peu plus développé. C'est-à-dire que les personnages secondaires qui avaient des pauses un peu ridicules, et puis avec parfois les traductions qui faisaient en sorte que c'était ridicule pour que ce soit regardable pour des très jeunes. Là ici, c'est plutôt l'effet inverse, on a des personnages qui sont travaillés, y compris les personnages secondaires, c'est-à-dire au niveau de l'Empire du Mal, on a des explications sur les raisons qui font que ce personnage est révélé avec la sorcière ou veut sortir de ce registre-là. Donc les personnages secondaires sont plus travaillés, les rangers sont également plus travaillés aussi, c'est-à-dire qu'en termes de la psychologie des personnages ici, elle est vraiment réussie. Donc ça donne vraiment une profondeur à la lecture et on doit ce travail à Cal Higgins. Au niveau de l'autre point positif de cette intégrale et des épisodes qu'il contient, c'est la qualité des dessins. Là, les dessins, ils sont vraiment magnifiques. On est vraiment sur du haut de gamme en termes de dessins de comics. Alex vient de vous en parler. C'est vrai que dans le comics, c'est une telle industrie qu'on peut avoir un peu de tout. Du mauvais
très, très bon.
Et du très très bon.
Ouais.
Du très très bon.
Et en plus, sur les mini-séries ou même sur des trucs un peu passables, je veux dire, ou sur une adaptation d'une série, on peut avoir quelque chose, série télé, je veux bien dire, on peut avoir des choses On sait pas pourquoi ils mettent quelqu'un tout pourri pour un truc qui pourrait fonctionner, mais comme il les vend, c'est une industrie de masse.
Oui, c'est ça.
Et là, ça se vend.
Voilà. Là, on est sur quelque chose de, forcément qui est massif et qui accompagne le succès de la série qui a cartonné aux États-Unis et qui continue, d'accord. Hein,
parce que, il y a toujours des séries.
Il y a toujours des séries hein, qui existent de cette licence-là. Mais là, force est de constater que. Enfin, c'est joli, enfin, même la planche de fin, là, on a même un quasi-hommage à Evangelion sur, avec le design du méchant, enfin, c'est magnifique. Et comme d'habitude, chez Vestron, bah, on a la galerie d'autres artistes qui s'emparent de cette licence-là, qui proposent des illustrations pleine page, qui sont mises à la fin de l'album, ou pour séparer certains chapitres, et vraiment avec des styles très différents, mais c'est vraiment enfin, extrêmement joli, quoi. On a vraiment des choses magnifiques. Sachez que pour cette intégrale aussi, les éditions Vestron offrent un petit marque-page, qui, à chaque achat, c'est dans le bouquin, et puis il y a un marque-page qui est également pareil. Enfin, ils ne sont pas moqués du lecteur, hein, donc recto verso. Il est vraiment de qualité. Enfin, c'est la qualité de papier. Là, on est sur un papier classique, on n'est plus sur du papier glacé, mais la qualité d'impression est magnifique. Enfin,
mais ça se voit sur la qualité d'impression. Ouais. Le papier, il y a quelque chose qui fait que
oui.
Je ne suis pas sûr que sur du papier glacé, ce type de dessin serait ressorti mieux.
Ouais. Ça qui est bien chez Vestron, c'est qu'il y a cette réflexion-là en fait. Ouais, ce sont des gens qui aiment bien ces licences, ils sont très amoureux de la pop culture, donc ça tombe bien nous aussi. Et ils veulent transmettre cette passion-là aux lecteurs. Et voilà, c'est toucher toute une gamme de lecteurs. C'est-à-dire, il y a des gens, voilà, on aime les Tortues Ninja, on n'aime pas, on aime Power Rangers, on n'aime pas, il en faut pour tous les goûts. Et chacun est contenté en fait, parce que le catalogue est très riche. Et là, pour celles et ceux qui aiment beaucoup les Power Rangers, cette intégrale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans votre bibliothèque.
Oui, et puis ça complète les histoires.
Oui, carrément.
Mmh. Après, je pense que c'est un bouquin qui est plus pour des personnes de nos âges.
Oui.
Que le.
Ou peut-être un peu plus jeune, une dizaine d'années moins. Les trentenaires qui ont grandi avec les Power Rangers, voilà. Dans la Dorothée, en fait, tout simplement. C'est vraiment. Ouais, eux, ils auront plaisir à retrouver les personnages.
Exactement.
Moi, ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai présenté l'album, moi, j'étais un peu passé à côté du phénomène. Enfin, j'ai un petit frère, donc je connais un peu. J'étais passé à côté du truc parce que nous, on est plutôt XOR et Bioman, comme ils disent au Japon, mais. Ouais. Ça reste le même délire en fait, voilà, c'est qu'on avait grandi entre temps et qu'on était passé sur d'autres choses.
Autre chose, et puis tout simplement, mais voilà. C'est vrai
mais
que
c'est, quand on voit ça, après,
revoir,
c'est chouette.
On a la chance maintenant d'avoir des éditeurs qui reviennent en arrière, qui viennent prendre ce que nous on aurait bien voulu avoir à l'époque.
Ouais, carrément, ouais, c'est ça. Donc un gros merci à Vestron. Et puis moi je vous invite vraiment, chers amis, à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site web. Regardez chez votre libraire s'ils n'ont pas du Vestron, faites le commander s'ils n'en ont pas. Ça se trouve très très facilement. Et puis également, on parlait de grossissant, je finirai là-dessus. Chez Vestron, moi je les avais découverts parce qu'ils avaient sorti, enfin en français, un comics que j'attendais depuis très longtemps, c'était Terminator contre Robocop, de Frank Miller. Scénarisé et dessiné par Frank Miller. Et c'est un ouvrage de dingue, quoi. C'est vraiment. Et quand ils avaient dit, c'est enfin sorti, moi j'y croyais pas. Et j'ai trouvé très facilement. C'était vraiment c'était une grosse claque. Et puis voilà, ils ont du Robocop, du Terminator. Enfin, foncez, regardez ce qu'ils font, vous serez pas déçus. Et on va passer maintenant à la BD.
Ouais, BD.
Allez, BD, c'est parti. Donc, BD franco-belge. Alex, qu'est-ce que t'as dégoté ?
Eh ben, déjà, vous avez entendu ? Ça, c'est bon, comme son. Donc, j'avais découvert, il y a quelques années maintenant, parce qu'on est arrivé, mine de rien, au 14e volume de Alix Senator. Donc, claque monumentale à chaque sortie. C'est beau, c'est magnifique, les histoires s'enchaînent et ont même des fois un petit rapport avec Alix tout court, bien sûr. Parce que...
C'était la question que je m'apprêtais à te poser, si tu veux. Donc, Alix Senator, c'est la suite de la série Alix qu'on a connue,
voilà.
Quand on était gamin. D'accord.
Donc, t'as Alix qui continue tout le temps, ou c'est Valérie Mangin qui scénarise en ce moment. Là, Alix Senator, c'est Valérie Mangin qui scénarise. Et ce qui est marrant, c'est que là, on voit un Alix qui est vieux. Qui est sénateur et qui vit des aventures intéressantes. Alors, point de vue dessin par rapport à l'X normal, ça n'a rien du tout à voir. C'est sur quelque chose. Alors, je veux pas dénaturer le travail qui avait été fait par l'auteur d'origine, mais je veux dire, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé. Une qualité d'impression, une qualité un petit peu plus quand même. C'est
un trait qui est plus contemporain en fait.
Oui.
On voit quand même le trait d'origine, enfin, il y a le respect des personnages d'origine, du travail de l'auteur originel comme tu disais, mais avec un design quand même qui arrive à arrondir, à faire quelque chose qui est plus en rapport avec ce qu'on est habitué à lire actuellement.
Moins de cases, moins de texte dans les cases, parce que franchement, ça peut rebuter, Alix tout court peut rebuter par point de vue des dialogues qui sont quand même assez importants. Et beaucoup de cases, donc c'est vrai que c'est plus petit. Là, on est sur quelque chose de où les dessins sont plus grands, plus... c'est pas plus beau, c'est... on peut les apprécier plus facilement, parce qu'il y a cette recherche du détail et on peut mieux voir.
Oui, c'est clair, parce que là, en termes de détails, là, je viens de tomber sur la planche avec l'Optio, donc l'adjoint du centurion romain, qui est ici, là, sur la planche 25. Là, on voit bien, au niveau du détail de l'armure, il y a même le petit pendentif là, qui porte le col et tout. Là, c'est vraiment très...
C'est très détaillé, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Et on se retrouve avec des complots, on se retrouve avec des choses hyper intéressantes. Disons que c'est le genre d'histoire qu'on aimerait voir à la télé avec... je veux pas dire à la Game of Thrones, mais...
Ouais, ça peut faire une bonne série HBO, en fait, voilà, c'est vraiment le principe.
Franchement, et ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, le lien entre ce qui a pu se passer dans Alix, qu'on peut retrouver des années plus tard dans Alix Senator. C'est vraiment super bien fait. Moi, j'apprécie chaque... C'est à peu près un livre par an. C'est plaisant d'attendre, parce que un n'est pas forcément la suite de l'autre, parce que souvent, ça peut être en 2-3 tomes, qui est un truc, un fil conducteur, puis après, on passe à autre chose. Mais je trouve ça vraiment intéressant et que ça existe de cette manière-là, parce que je suis les spin-offs, c'est vraiment spécialité américaine et sur le comics. Mais quand c'est bien fait intelligemment, bah Alix Senator, si vous aimez Alix, bah allez-y, parce que franchement, c'est plaisant, c'est joli et on s'ennuie pas dedans. Donc voilà, ça c'était mon petit coup sur Alix Senator que j'apprécie énormément.
Après, alors dans les mains t'as encore quoi?
J'ai Boulet Bill, eh oui parce que j'aime bien Boulet Bill.
Ah, c'est classique tout ça.
C'est très très classique. Donc on est quand même arrivé au 44e volume. A noter que, sans parler de celui-là, Boulet Bill, les éditions d'Argo ont sorti une intégrale des 24 premiers tomes. Oui, vous entendez bien, des 24 premiers tomes. Ça doit coûter dans les 60 balles. C'est un format assez sympathique, donc ça fait omnibus à l'américaine. Mais quand même, pour 60 balles, avoir 24 tomes...
C'est plutôt honnête. C'est honnête, c'est très très honnête.
C'est très très honnête. Et si vous aimez Boulet Bill et vous voulez pas vous embêter à avoir une frise, on va dire, d'une couleur ou d'un dessin et pas fini, parce que c'est embêtant de trouver des fois, si vous avez commencé dans une collection et que l'éditeur a arrêté et que vous êtes obligé d'avoir un autre truc ou tout racheter, bah un bouquin, 24 tomes en un seul, il n'y a pas problème de frise, de... c'est cool. Donc moi je dis que déjà, merci de cette intégrale. Les histoires continuent. Je trouve que bah, c'est toujours très sympathique. Hein. Le chien, la famille, le chat caporal, c'est top quoi. Moi je trouve que c'est vraiment, on retrouve toujours ce petit côté de blague à la case. Alors pour avoir des idées, on se dit punaise, les gars, trouver la chute, trouver la connerie, c'est pas mal. Non, franchement, ça fait toujours plaisir de voir ce petit garçon et ce chien qui ne vieillissent jamais. Si vous voulez la BD pour sans réfléchir, prendre un bon moment, bah Boulet Bill fait partie de ces, comme le petit Spirou, comme Cédric. Bah, c'est plaisant, on lit ça, et puis on va les relire plusieurs fois, pas forcément dans la même année, mais on va les relire plusieurs fois, parce que ça permet de s'évader sans se prendre au sérieux. On est sur, entre Boulet Bill et Alix Senator, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même type de BD, mais on est vraiment sur quelque chose de plaisant. Et le but, c'est toujours se faire plaisir.
Exact. Un qui se fait plaisir également au niveau de la bande dessinée, c'est David Mourier. Alors... peut-être que le grand public que vous êtes, vous le connaissez pas, ou vous avez peut-être entendu parler du nom. Moi, j'estime que ce monsieur, c'est un peu l'équivalent de Kevin Smith aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un peu le pape de la pop culture pour nous. Il a commencé en faisant des vidéos YouTube avant que YouTube existe, si vous préférez, avec un collectif qui s'appelait Une Case en Moins. Et on pouvait trouver, parfois sur des DVD offerts par des magazines, des sketchs qu'ils avaient filmés. Donc, c'est la Ligue des Justiciers de l'Ardèche, par exemple. Enfin, des trucs complètement dingues avec un humour bien potache, bien rigolo, bien parodique. Il a fait son petit bonhomme de chemin, David. Et puis, maintenant, force est de constater qu'il est voilà, réalisateur, auteur de bande dessinée aussi. Et il est le papa de la Petite Mort. Petite Mort qui existe en version animée et dont la voix est notre chère amie Brigitte Le Cordier. Ici, on a un nouveau tome qui est sorti de la série La Petite Mort, mais un tome qui peut se lire indépendamment de la série. il s'intercale entre le tome 4 et 5 de mémoire, mais l'auteur insiste sur le fait qu'on peut lire comme ça. Chose que j'ai faite, parce que moi, la petite mort, je la connais en version animée, j'avais lu le tome 1 à sa sortie, et après, je n'avais pas lu la suite. J'avais un vague souvenir. Ce tome-là sort, puis alors, le titre, hein, c'est, voilà, c'est la petite mort. Les héros meurent aussi, avec une mise en page qui est très drôle sur la couverture. On voit la petite mort qui est un peu peinée d'avoir tué une Tortue Ninja, Mario, Son Goku et d'autres personnages de pop culture. Et avec le petit logo qui reprend les logos qu'on avait sur les jeux de Nintendo à l'époque. c'est plutôt marrant. Alors ici, le grand tout transmet une nouvelle mission à la petite mort, faucher les héros de bande dessinée, jeux vidéo et de dessins animés. Après avoir mené ses premières actions avec succès, l'héroïne commence à angoisser face à la fatalité du temps qui passe et à la disparition. Elle va amener quand même à s'interroger parce que à force de tuer des gens qui viennent de ces licences-là, c'est plutôt bizarre quand même. Il y a un doute qui émerge. Pourquoi est-ce que le Grand Tout lui demande de tuer autant d'individus? Y aurait-il pas un petit complot qui se cache? Et oui, il y a un complot qui se cache et qui est révélé à la fin et qui est vraiment jubilatoire. Alors ici, l'auteur propose cette histoire qui est dans son humour à lui. Hein, c'est un plaisir qui est malin, il est très taquin, décalé, parodique, avec un humour pipi-caca de temps en temps. Le déroulé n'est pas linéaire en plus dans la bande dessinée, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des interruptions dans les chapitres avec des fausses publicités où l'auteur va emprunter aux techniques du roman photo d'ailleurs à l'occasion. On a des passages aussi où le personnage principal, la petite mort, va se questionner sur la vacuité de ce qu'elle appelle la non-existence, avec un passage avec sa maman qui lui donne une explication. Donc on est sur quelque chose, sur un ton qui prend le contre-pied du reste de l'album et qui est très très intéressant. On a vraiment eu à la fois cette réflexion sur le temps qui passe, sur l'intrigue, sur la nostalgie, mais aussi l'intrigue qui est derrière le fait que tous ces héros passent de vie à trépas. Et moi, ce que j'adorais, c'est les scènes d'action, c'est les résultats, enfin, des morts, mais alors les plus improbables, les plus abjects, mais ça reste toujours drôle, enfin, c'est vraiment génial, enfin, c'est vraiment moi, ça m'a fait un espèce de mélange entre les films d'action et puis le roman des Bourbon Kids, en fait, au niveau de la tuerie, c'est carrément jubilatoire. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'imaginaire, voilà, c'est que là, on a les personnages de pop culture, on les connaît tous. Ils sont détournés pour des raisons de droit, mais on les reconnaît facilement. Il y a puis toute l'iconographie de la mort aussi qui est là, donc ils jouent sur tous les registres culturels possibles et imaginables pour les détourner, pour en rire, jamais sans se moquer, forcément. C'est vraiment... Et puis il y a une fin qui est vraiment géniale. J'ai vraiment... C'est ma petite pépite de la rentrée 2024. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps, il est sorti ce mois de janvier. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment, je l'ai lu d'une seule traite, j'ai beaucoup ri, je l'ai d'ailleurs relu avant de vous le présenter. Et moi, c'est mon petit coup de cœur BD franco-belge là, pour ce mois-ci, là, sur ce qui est lu des sorties, parce qu'on n'a pas pu tout lire non plus. Il y a quand même beaucoup, mais on peut pas tout lire. Mais là, c'est là, La Petite Mort, les héros meurent aussi. Si vous voulez vous payer une bonne tranche de rire, même si vous connaissez pas La Petite Mort, faites-vous foncer dessus, faites-vous plaisir, vous allez voir. Et sachez que David Mourier, il est au Festival d'Angoulême avec Brigitte. Et ils vont être tous les deux faire une petite présentation, ça va être sympa. Et si on passait au manga maintenant?
Ouais, j'en avais un dans les mains déjà, c'est pour ça que vous avez dû entendre. La Dragon Quest, donc nous on a connu sur
Fly.
On aimait bien ça, nous, dans notre enfance. Et c'était J'ai lu qui les avait sortis. C'était les premiers mangas de J'ai lu.
C'est sorti après City Hunter.
Et
très peu de temps après,
Captain
Tsubasa. Et après, on a eu Fly. Qui est sorti avec l'appellation Fly d'ailleurs.
Et ce qui était bien, c'est que ils avaient gardé les noms de la série, les noms des attaques, certaines choses. Après, quand ça a été réédité par Tonkam, alors Tonkam n'existe plus.
A été racheté en fait par Delcourt.
Delcourt, y a un problème, c'est que. Problème, entre guillemets, bien sûr. C'est qu'à un moment donné, on est quand même maintenant dans une époque où on est vraiment le nom correspond au nom, on change plus rien. Et donc, Fly a repris son vrai nom, Dai, et les attaques et certains personnages ont repris les noms qu'ils devaient avoir, qui ont été traduits du dessin animé.
C'est plus un tabou maintenant de laisser les noms originels, en fait. Voilà. Avant, il fallait franciser parce que le public destiné, la version animée, c'était les enfants, dans les émissions jeunesse, c'était la méconnaissance du manga et de l'animation de l'époque. Maintenant, on prend l'original, il n'y a plus de honte à cacher, transformer, Shinichiro, à transformer en Henri, on s'en fout, il va garder son prénom.
Prénom Inca, qui le gars s'appelle Guillaume, Cités d'Or, par exemple. C'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose. Donc, Dragon Quest, franchement, moi, c'est une de mes séries que je voulais continuer, parce que le dessin animé, on ne sait pas pourquoi, il n'avait pas fini. Et là, grâce à ces éditions-là, on peut voir la série entièrement. Et en même temps qu'ils rééditent ces bouquins, la série a été refaite. Et vous pouvez la revoir aussi en dessin animé complet. sur J1 ou un truc comme ça, ou Game One. Et là, sur Dragon Quest, la quête de Dai, ce qui est bien, c'est des gros volumes. Il y en a 3 ou 4 qui sortent à l'année, mais c'est des gros pavés. Et c'est vraiment sympa. Alors, Johan me disait que le premier tome avait été gavé d'erreurs de... Ouais. On va dire des fautes d'orthographe. C'est embêtant. Et là, on est sur ce tome 8, on est déjà au tome 8, où on voit la confrontation un peu entre Dai et son père, qui s'intitule Baran. Et bien sûr, on retrouve Dai amnésique à cause de son père. Et bien sûr, le roi des méchants veut pas, bien sûr, que Dai rencontre son père et tout ça, parce que c'est des chevaliers dragons, ils ont des... D'où la marque du dragon qui est sur Fly. Sur Dai, j'ai vraiment du mal. Je vais pas y arriver. Ça, c'est marrant. Donc, si vous aimez l'univers du jeu vidéo, parce que bon, Dragon Quest est un jeu vidéo avant d'être un manga et d'être un dessin animé.
Et dont, alors, je vais te couper, mais c'est au niveau des illustrations de la version jeu vidéo, c'était donc portage sur Nintendo à l'époque, donc sur la Famicom, puis la Super Famicom, donc la NES, la Super NES pour nous. Le design des livrets, des personnages, ont été faits par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball.
Ouais, tout à fait. Donc, si vous voulez quelque chose d'héroïque fantasy, avec des personnages, des quêtes, des personnes, des communautés qui vont affronter un mage un peu à la Seigneur des Anneaux, et tout en étant avec un petit humour, sans être trop enfantin bien sûr, Dragon Quest, la quête de Dai, The Adventure of Dai, c'est même écrit en anglais sur la couverture, c'est fait pour vous.
Alors on va rester dans le domaine du manga, Alexandre, avec mon coup de cœur de la fin d'année 2023, qui était un gros coup de cœur pour tout le monde, qui était une énorme surprise, pour fêter les 20 ans d'une maison d'édition, la maison Sarbacane. On a enfin un manga qu'on attendait depuis 40 ans en français, Le Voyage de Shuna, d'Hayao Miyazaki. Ouais, donc Miyazaki n'est pas que le grand réalisateur de films qu'on connaît, j'insiste bien réalisateur de films, parce que pour moi les films d'animation sont des films, on va pas faire une sous-distinction. C'est quand même honteux. Sachez que ce manga, sur sa première semaine, s'est écoulé à 18 000 exemplaires. C'était un démarrage spectaculaire, énorme. Cinquième édition. C'est-à-dire qu'on a eu deuxième tirage à 75 000. Il y a le troisième qui avait été annoncé quand j'avais fait un papier sur Miyazaki. Et depuis, ça a continué. C'est-à-dire qu'il y a eu un engouement. Alors, il y a une couverture médiatique. Alors, j'ai rarement vu ça pour un manga quand ça sort en France. On a une couverture médiatique sur les gros médias mainstream, y compris donc chaînes d'information continue, médias presse papier classique, Figaro, Le Monde, L'Express, Télérama, enfin tout le monde était unanime. France Culture ou Fausto Fazulo, donc le rédac-chef de Mad Movies et de l'excellent magazine Atom, est intervenu pour défendre le manga, parce que certains détracteurs disent non, c'est pas un manga, c'est en fait c'est très particulier parce qu'on est sur un ouvrage qui tient plus de Les Monogatari, donc qui est un art japonais où on a un dessin avec une petite explication textuelle. C'est un objet hybride en fait, mais par contre c'est une tuerie. C'est une tuerie parce que c'est vraiment l'œuvre matricielle de Miyazaki. Ça sort en 83 et dedans, quand on est un bon connaisseur de sa filmographie, il y a tout. Il y a les prémices de Nausicaa, il y a les prémices de Mononoke, il y a les prémices de toutes ses œuvres en fait. Tout son discours, un discours qui est politique, environnementaliste, sociétal, tout ce qu'il gênait, toutes ces névroses en fait sont dedans, et avec un dessin mais d'une beauté, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, ça faut le mentionner, c'est 147 pages couleurs d'aquarelle qui ont été du coup publiées pour le public francophone. Le bouquin est d'une qualité magistrale, vraiment, c'est un truc de fou, c'est l'un des mangas que j'ai vu être le plus vendu dans les librairies que je fréquente. Parce que voilà, il y a le côté Miyazaki, forcément, ça fait, quand on connaît pas la bande dessinée, ça fait vendre. Il y a le côté. Et ça sortait avec du coup, la sortie de son dernier film en France aussi. Mais il y a un engouement pour ce titre. Mais un engouement, peut-être pour le nom. Ça sortait pour les fêtes de fin d'année, peut-être pour faire plaisir, c'est un beau cadeau. Bon, ça, c'est cool aussi. Mais engouement parce que le titre en lui-même, il le mérite cet engouement-là. Il le mérite. Vous avez un parcours initiatique d'un jeune homme qui veut sauver son peuple, qui est menacé par la famine, qui va traverser un monde qu'on devine post-apocalyptique. Conan? Hein, fils du futur, donc là on est déjà aussi. Voilà, il y a tout ce qui se croise et il va rencontrer des esclaves. Donc on a tout un discours sur l'esclavagisme, sur les fuites, les chutes de civilisation. C'est une fin qui est sombre. Beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'ils ont trouvé ça très très sombre parce que certains ont dit Miyazaki donc égal enfant. Mais ça reste un discours d'un adulte pour des lecteurs plutôt ados et adultes. mais avec un vrai discours dedans. Enfin, c'est un livre que vous ouvrez. Moi, je le mettrais plutôt dans les romans graphiques, d'ailleurs. Mais vous en prenez plein la tête. Alors, vous le refermez, vous le relisez derrière, parce qu'il y a forcément des trucs qui vont échapper. Ou alors, vous allez prendre le temps. C'est du manga contemplatif. On va prendre le temps d'analyser la planche, de regarder tout ce qu'il y a, le choix des couleurs. Enfin, il y a un travail, mais complètement fou, en fait. C'est pour ça que, pour moi, c'est un travail matriciel. Parce qu'après, il a repioché dedans pour ne cesse que le Yakulu de Princesse Mononoke, donc l'animal sur lequel Ashitaka se déplace. Voilà, il est en couverture, enfin, c'est l'animal également pour Shuna. Donc, on a ça. Mais c'est vraiment... c'est un titre qui ne peut pas laisser indifférent. Enfin, déjà, si vous êtes des otaku de première, si vous aimez le manga pour le côté culturel et artistique, celui-ci il est indispensable. C'est comme Nausicaa d'ailleurs, ils sont tous les deux indispensables dans une mangathèque, hein, ils sont vraiment... Et c'est intéressant parce que ça a révélé au grand public aussi l'aspect mangaka de Miyazaki, parce qu'au départ, Miyazaki voulait pas être réalisateur de films, il voulait être dessinateur de bande dessinée. Et c'est le choc au cinéma du Serpent Blanc en 59 qui va l'amener à réfléchir autrement, mais il a toujours voulu faire de la BD. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas bien marché, il y a eu le studio Ghibli qui s'est fondé, des échecs avant la création de Ghibli par rapport au fait que Conan n'est pas fonctionné à la télévision, que le château de Cagliostro n'est pas marché au cinéma. Donc il y a eu des périodes de dépression qui l'ont amené du coup à se revenir sur le manga. Il y a eu Nausicaa qui a été pris par Animage sur une publication sur 12 ans, donc interrompu parce que le mec travaillait sur des films, puis ça y est, sa notoriété était lancée. Donc, mais voilà, pour revenir sur Shuna, c'est un manga qu'il faut lire. C'est vraiment un manga qu'il faut lire parce qu'il est à la fois un manga patrimonial, important pour la culture de la bande dessinée internationale, et aussi un manga parce que pour ce qu'il est, pour l'histoire qu'il raconte, qui est vraiment passionnante et très enrichissante. Bon, on va devoir se quitter, ça y est, on est arrivé au bout de cette émission. On a essayé de vous présenter en un temps record le maximum de titres qui nous ont plu dans nos dernières semaines de lecture. On va faire le plein de lectures et également le plein d'interviews au niveau du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. D'ailleurs, on remercie le festival de nous accueillir encore cette année.
Franchement, on est accueillis vraiment pour une petite radio. Je trouve qu'on est accueillis
comme des rois.
Comme des rois. Donc, on les remercie d'avance.
On tenait à les remercier très fort pour toute l'aide qu'ils nous apportent. À bientôt.
Salut.